Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal présenté par Patience Ngalula Mbombo. D'abord les titres de ce journal. Rentrée judiciaire hier jeudi de la Cour des comptes. À l'occasion, le premier président de cette instance plaide pour le renforcement de l'arsenal juridique de cette première institution de contrôle des finances en RDC par les législateurs. Persistance de l'insécurité dans les Grands Nord Kivu, toutes les couches sociales de la région invitées à s'approprier les processus de paix. Ils réfléchissent sur les défis sécuritaires et les solutions appropriées. L'invité de ce journal est le directeur des missions internationales d'observation électorale au Centre Carter, Nicolas Stendas, revient sur les conclusions du rapport final du Centre Carter sur les élections organisées en 2023 en RDC. Bonjour. Le premier président de la Cour des comptes demande aux députés de renforcer l'arsenal juridique de la première institution supérieure de contrôle des finances en RDC. Jimmy Munganga Ngwaka l'a dit jeudi 25 juillet à l'occasion de la rentrée judiciaire de son institution au Palais du Peuple en présence de la première ministre, des députés et plusieurs personnalités politiques, judiciaires et des diplomates. Il a dénoncé la corruption et la fraude qui caractérisent la gestion de la chose publique. La Cour a également remis au chef des institutions publiques son rapport annuel exercice 2022-2023. Reportage Jeff Ngoy.
Le renforcement du pouvoir de contrôle de la Cour des comptes pour la promotion d'une gestion financière et budgétaire saine et responsable. C'est le thème du discours du premier président de la Cour. Pour renforcer ce pouvoir, Jimmy Munganga plaide auprès du législateur pour la réforme législative de 2018 afin que ce renforcement devienne réel et non un simple mythe. Il est incompréhensible, dit-il, que le comptable public qui exécute l'ordre du ministre et du gouverneur soit justiciable devant la Cour, alors que ces derniers donneur d'ordre échappe à la juridiction de la dite cour pour répondre de leur faute de gestion. Selon le chef de cette juridiction, tout Congolais doit avoir un juge naturel en application de l'article 19 de la Constitution. Cependant, dénonce Munganga, les ministres, les gouverneurs et certains autres ordonnateurs politiques n'ont pas de juge à proprement parler en matière de faute de gestion, au nom des immunités et privilèges de juridiction. Ce qui consacre en réalité l'impunité pour les fautes de gestion par eux commises.
Toujours au cours de cette rentrée judiciaire de la Cour des comptes, le procureur général près cette juridiction a lu sa mercuriale axée sur les renforcements de la cohésion et la solidarité nationale. À cet effet, il a fait savoir à la première ministre que seule la Cour des comptes est l'institution supérieure des contrôles des finances publiques et des répressions des fautes de gestion reconnues par la loi. Et son procureur est le seul maître de l'action publique en cette matière. Il n'y en a pas deux en RDC. Si vous la prenez dans une institution autre que la Cour, c'est que c'est suspect, a martelé Salomon Toudjéché. Justice toujours au procès de Corneille Nanga et consorts, deux des cinq prévenus plaident coupables. Ils affirment avoir créé l'Alliance du fleuve Congo pour conquérir les pouvoirs par tous les moyens possibles car rien ne marche dans les pays. Ils l'ont ouvertement déclaré au cours de l'audience publique de ce jeudi devant la cour militaire de Kinshasa Gombe. Celle-ci a débuté l'instruction de prévention des trahisons et participation au mouvement insurrectionnel dont ils sont accusés. Encore une fois, Jeff Ngoy, reportage.
Eric Nkumba et Kamja Chamachabo affirment être cofondateurs de l'AFC, créé en se basant sur l'article 64 de la Constitution qui stipule que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir par la force et l'exerce en violation des dispositions constitutionnelles. Nous avons créé l'AFC pour donner de la valeur aux Congolais, dépose Eric. Par quel moyen est-ce que la Constitution l'autorise? Demande la Cour aux prévenus. Kamja répond que tous les moyens étaient bons pour eux. Est-ce que tous les détournements des deniers publics auxquels on assiste dans le pays, la Constitution les autorise, s'interroge-t-il. Luc Safari fait l'étalage de plusieurs révélations et en réserve d'autres pour les couloirs, évitant selon lui d'embraser le pays déjà en danger. Il affirme avoir pris des armes pour défendre l'intégrité du pays menacé par le Rwanda. Je suis un patriote qui savait tendre des embuscades aux rebelles du M23 et capturer quelques-uns à Busanza et Binza. Quant à Jean Rutin Sebastian Enanga, il avoue avoir été arrêté parce qu'il porte le même nom que Corneille Nanga, son neveu. Il ignore tout de l'AFC et met au défi le ministère public de lui prouver le contraire. Les interrogatoires vont se poursuivre ce vendredi.
Et puis, les CONAFOD, Conseil national des forats des ONG humanitaires et développement de la RDC, s'indignent de la décision demandant à toutes les ONG de régulariser leur situation concernant la personnalité juridique. Ils demandent au ministère de la Justice de remettre ces organisations dans leurs droits car jusqu'à présent, il n'y a aucune loi qui contredit les démarches que plusieurs d'entre elles avaient déjà entamées pour obtenir cette personnalité juridique. Au micro d'Étienne Lissumbu, les coordonnateur du CONAFED, Dr. D. Joseph Kakisingi, appelle le ministre de la Justice à revenir sur sa décision à l'égard des organisations non gouvernementales. Suivez.
La première chose, de remettre dans leurs droits les ONG qui ont fait ce qu'ils devraient faire pour obtenir la personnalité juridique. Donc on ne peut pas leur demander de refaire ça des fois, et la loi d'ailleurs les protège, parce que la loi à laquelle il fait allusion stipule justement que quand vous avez fait une demande, on vous remettait une à l'accusé de réception. Dans les mois qui suivent, normalement le ministère devrait vous donner votre personnalité juridique, et dans les 6 mois, si cela n'est pas donné, et automatiquement vous êtes censé avoir cette personnalité. C'est une loi qui existe, et à notre connaissance on n'a pas une autre loi qui l'a cassée. On a juste eu de communiquer, et on pense que dans un pays des droits, les droits quand même devraient être respectés. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, il y a maintenant les organisations qui n'ont pas entamé les processus, mais qui ont des autorisations provisoires de fonctionnement, qui sont dans les provinces et qui sont très loin. Ceux-là, ils ont besoin d'avoir justement cette personnalité juridique, et là, nous demandons au ministre d'être plus réaliste, c'est-à-dire de décentraliser les processus, que tout le monde ne soit pas obligé de venir à Kinshasa, à 2000 km, pour demander cela.
Ouverture ce jeudi d'un atelier de 3 jours sur les défis sécuritaires dans les Grands Nord Kivu. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation organisée par les programmes Démobilisation, Désarmement, Réinsertion Communautaire, PDD-RCS, avec l'appui de la MONUSCO. Y participent notamment les autorités politico-administratives et sécuritaires de la région, les leaders des groupes armés, les leaders communautaires et religieux, les associations de jeunes. L'objectif est de diagnostiquer les problèmes sécuritaires de la région afin d'envisager des pistes de solutions. Clovis Mounigiré, coordonnateur provincial du PDD-RCS, explique au micro de Guylaine Kassassia.
Nous voulons que les communautés sachent très bien que le moment de faire la paix est venu. Mais on ne peut pas chercher la paix si nos propres enfants, à qui nous pouvons faire passer le message directement, n'acceptent pas faire la paix. Mission principale ici, c'est de sensibiliser les communautés à souscrire et s'approprier les processus PDDRCS, mais aussi à s'abstenir à adhérer au phénomène M23. Aujourd'hui, c'est une journée consacrée aux exposés sécuritaires. Ça va nous donner maintenant l'élan de poursuite des débats. Et après ça, nous allons aboutir, pas aux recommandations, aux engagements personnels. Nous aurons un fait de route clair pour essayer de les transformer cette fois-ci au projet communautaire. Et ces projets-là vont nous aider maintenant à encadrer non seulement les communautés, mais aussi les membres des groupes armés.
Autre nouvelle, dynamisation de l'économie nationale. Le ministre des Finances Doudou Fouamba Likunde et celui de l'industrie Louis Watum se disent déterminés à relancer les entreprises industrielles de la RDC. Au cours des échanges hier au cabinet du ministre des Finances, les deux ministres, accompagnés de leur délégation d'experts et des parties prenantes dont les fonds de promotion de l'industrie FPI, ont abordé la question de relance des entreprises industrielles, notamment la société textile de Kisangani, Sotexki. Le ministre des Finances Doudou Likunde propose que les fonds de promotion de l'industrie financent la relance des sociétés industrielles appartenant à l'État. Ces projets de relance industrielle visent à créer des emplois et à construire des infrastructures, redonnant ainsi espoir à la population locale, affirme le ministre de l'Industrie. Louis Watum est au micro de Michel Kifindangoy.
Au nom de la solidarité gouvernementale, nous devrions examiner un certain nombre de dossiers, notamment ce qui concerne mon secteur, qui est celui de l'industrialisation de ce pays. Vous savez que nous avons des fleurons de notre industrie qui doivent être remis à jour pour créer des emplois. C'est ainsi que nous avons fait un tour d'horizon d'un certain nombre d'industries dans notre pays, notamment en citant au passage Sotexki, le Tokila, Simaiko. Également, on a parlé aussi MIBA. On a parlé d'un certain nombre de dossiers et également de la problématique des zones économiques spéciales. et du risque de voir une concurrence déloyale avec les opérateurs économiques qui sont déjà établis au pays. Une réponse de franche collaboration, de soutien à notre effort. Nous allons avancer ensemble en des comités mixtes pour approfondir certains de ces dossiers qui demandent encore un apport un supplémentaire d'informations pour une meilleure prise de décision et une meilleure prise en charge de ces dossiers. Voilà essentiellement ce dont on a discuté.
La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a reçu ce jeudi 25 juillet 2024 le secrétaire d'État polonais chargé de l'Afrique et du Moyen-Orient, Andrzej Sejna, à la tête d'une forte délégation composée des diplomates, des hauts fonctionnaires et d'opérateurs économiques de son pays. Au-delà des questions de développement économique, la Pologne, grande puissance militaire en Europe, attachée au respect de l'intégrité du territoire de chaque État, a une position bien tranchée autant sur la situation sécuritaire dans l'est du pays que sur celle de l'Ukraine. Pour le secrétaire d'État polonais Andrzej Sejna, cette visite en RDC signe le renouvellement d'une coopération bilatérale en dents de scie depuis plusieurs années. Le secrétaire d'État polonais est au micro de Jean-Marc Matwaki.
Nous sommes reconnaissants pour votre accueil chaleureux ainsi que le programme de visite que vous avez arrangé pour nous à Kinshasa. Nous l'apprécions sincèrement comme un signe visible de l'intérêt que les autorités congolaises portent au développement des relations avec la Pologne. Grâce au mémorandum que nous avons signé aujourd'hui, les consultations à Kinshasa au niveau des ministères prendront désormais un caractère plus systématique.
Sachez que cette rencontre s'est clôturée par la signature des mémorandums. Le secrétaire d'État polonais séjourne à Kinshasa pour la première consultation politique avec de nombreux membres du gouvernement congolais. À Matadi, au Congo central, les activités académiques sont à l'arrêt depuis 3 jours à l'Institut supérieur pédagogique de cette ville à cause des manques de bâtiments propres à cet établissement académique. Une journée de vives tensions entre les éléments de la police nationale congolaise et les étudiants de l'ISP Matadi était observée en début de semaine. La coordination des étudiants qui a été reçue ce jeudi par le vice-gouverneur de province pour lui faire part de cette situation plaide pour des infrastructure propre à cet établissement public de l'État, locataire depuis sa création en 2011. On écoute Mongendio Atunga, ministre de l'Intérieur et porte-parole du gouvernement des étudiants de l'ISP Matadi, au micro de Nana Plurich Mambou.
L'ISP demeure jusqu'à présent la seule institution de l'État locataire. Nous avons vu la gouverneure de la province du Lualaba qui a inauguré un nouveau bâtiment pour l'ISP. Et nous avons vu à Mbandaka, on a construit un nouveau bâtiment pour l'ISP. Pourquoi pas nous, l'ISP Matadi? Raison pour laquelle nous faisons appel aux autorités. Nous, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Ministre, qui est d'ailleurs née Congo, nous sollicitons votre implication. Madame la Ministre de l'ESU, nous sommes sentis abandonnés à notre propre sort et nous disons que les autorités doivent agir. Au cas contraire, nous les étudiants, nous allons nous prendre en charge. Arrivé au 20 novembre, si jamais l'État congolais ne donnait pas la solution à notre problème, nous allons nous prendre en charge. Nous voulons que l'État dote l'ISP d'un site parce que l'ISP n'est pas une institution privée. Aujourd'hui, c'est le troisième jour, on n'a pas étudié. Notre bailleur n'a jamais acheté ces terrains. Il y avait un projet de construction de stade. L'État devrait construire un stade. Ce terrain appartient à l'État. Nous voulons qu'il s'implique parce que nous sommes de l'État. Ce n'est pas un individu qui va nous mettre dehors.
Pour rappel, le mardi 23 juillet 2024, les étudiants de l'ISP Matadi ont manifesté leur mécontentement contre ce qu'ils qualifient des provocations de la part du propriétaire du collège de la sagesse, Badou Abadou, alias Chetonton, qui s'est permis d'effacer les écrits de l'ISP Matadi inscrits sur les murs de la clôture sans une moindre information au comité de gestion, moins encore à la coordination des étudiants. Au total, 8 étudiants ont été arrêtés puis libérés par la police nationale congolaise. Quatrième livraison de notre série de reportages sur les déplacements urbains, l'état des routes et la lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Les embouteillages les plus spectaculaires s'observent sur les différentes routes qui mènent vers Gombe. La majorité d'activités nécessitant les déplacements de la population sont concentrées dans cette commune. Conséquence, les plus grands nombres des Kinois se déversent les matins à la Gombe et retournent les soirs dans leur site dortoir, provoquant ainsi des embouteillages monstre aux heures des pointes. Une situation amplifiée par la dégradation de la quasi-totalité des routes mena vers la Gombe. Michel Kifindangoy.
Les embouteillages s'annoncent déjà à partir de 7h du matin sur les avenues Ngouma, Tourisme, de Libération, Poids Lourd ainsi que sur le boulevard Lumumba dans la commune de Limété. Qu'est-ce qui cause ces embouteillages? Un conducteur répond.
À Limété ici, il y a l'embouteillage au niveau des 11e rue jusqu'à la 7e rue. Mais si on voit devant, il n'y a absolument rien. Il n'y a que les incompréhensions de roulage et les incompréhensions aussi des chauffeurs. Parce que là-bas, devant, il n'y a rien. Ce qui cause l'embouteillage, ça ne se voit pas.
Pire, presque toutes les routes menant vers la ville sont devenues délabrées et impraticables.
Il n'y a pas de bonnes routes vraiment. Tout est abîmé. Parce que si nous regardons Kasai, Kabinda, Wideri, Bokassa, Kabamba, en tout cas, il n'y a pas moyen même de passer. Pour arriver d'abord au travail, ça pose problème. Et si on prend les routes qui sont bonnes pour le moment, il y a 24 heures et Wideri, mais pas mal d'embouteillages.
La lutte contre les embouteillages à Kinshasa passe par la réhabilitation urgente de ces avenues avant le retour de la pluie, mais aussi par la décentralisation des activités concentrées actuellement à la Gombe, estime les Kino.
Actualité internationale.
La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 débute ce 26 juillet à partir de 17h30 au temps universel, un rendez-vous auquel 110 chefs d'État et de gouvernement sont attendus, parmi eux une douzaine de chefs d'État africains.
L'invité.
La RDC a été en capacité de tenir les délais constitutionnels. Ces propos sont de Nicolas Tendas, directeur des missions internationales d'observation électorale au Centre Carter. C'est l'une des conclusions du rapport final du Centre Carter sur les élections organisées en 2023 en République démocratique du Congo. Nicolas Tendas revient sur ces rapports dans cet entretien avec Étienne Lissumbu.
Bonjour Monsieur Nicolas Tendas.
Bonjour.
Vous avez publié les rapports finaux du cycle électoral 2023. Aujourd'hui, quelles sont les grandes lignes qui se dégagent de ces rapports?
Parmi ces conclusions, on retient que la République démocratique du Congo a été en capacité de tenir les délais constitutionnels, mais que il y a eu un calendrier électoral qui a été très comprimé. Et ceci a eu un impact sur la qualité et sur la transparence du processus, c'est-à-dire que par exemple le fichier électoral a été constitué dans des délais extrêmement courts, l'audit du fichier n'a pas pu se faire dans des conditions optimales, la sensibilisation n'a pas été non plus optimale, il y a eu, comme vous savez, des problèmes avec l'impression des cartes d'électeurs, donc il y a quand même eu des problèmes importants qui ont pu avoir un impact sur la transparence, et je pense aussi processus post-électoral, hein, par exemple pour la transmission des résultats où la loi n'a pas toujours été respecté dans cette transmission des résultats. Putain. Et puis, dernière conclusion peut-être sur la question du traitement des contentieux. On peut noter que la Cour constitutionnelle et les juridictions en général ont traité les contentieux dans les délais pour la première fois, ce qui est un élément positif, mais que la manière dont les décisions ont été rendues n'ont pas forcément été effectuées en fournissant tous les soubassements pour justifier les décisions rendues.
Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de votre mission d'observation ?
Je pense que les difficultés rencontrées tiennent à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire le fait pour nous, lorsque l'on émet des critiques par rapport à un processus électoral et lorsqu'il y a des déviations par rapport à un certain nombre d'engagements clés, il faut qu'on soit en mesure de justifier, d'étayer, d'argumenter les éléments sur lesquels on apporte un regard plus critique. Et donc, je pense qu'une des principales, pas dire difficultés, mais oui, c'est de faire en sorte d'avoir les informations, de recouper les informations avec les différents acteurs, avec les CENI, pour que ce que l'on produit dans notre rapport puisse être considéré comme le plus juste et reflétant le mieux possible la réalité.
Y a-t-il des éléments positifs que vous avez relevés au cours de cette comme mission?
Alors bien sûr, il y a des éléments positifs. Je pense tout d'abord, on a eu une très bonne collaboration avec la commission électorale qui a été en mesure de fournir dans les délais toutes les accréditations que l'on avait sollicitées. Bonne collaboration aussi avec les autorités qui nous ont facilité aussi les démarches de visa pour nos observateurs. Et c'est vrai qu'il y a eu de la part des autorités cette volonté constante d'avoir des observateurs. Nous n'avons pas non plus été entravés dans l'accès à un certain nombre d'informations, ce qui est appréciable. Ensuite, on peut noter que la commission électorale et la Cour d'ailleurs, les deux institutions ont traité avec une grande inclusivité l'inscription des candidats. Ça, c'était un élément notable. Le fait aussi que la CENI a publié les résultats bureau de vote par bureau de vote, comme l'exigeait la loi depuis un amendement de 2022. C'était un élément positif, même s'il manquait certaines données sur le site internet, comme le nombre d'électeurs par bureau de vote et le taux de participation. Et puis, je pense à un engagement, un engouement de la part de toutes les parties prenantes et des électeurs dans le processus électoral. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur les éléments positifs.
Merci, monsieur Nicolas Tendas.
Merci à vous.
Et c'est la fin de cette édition d'information mise en onde par Debs Vita, supervisée et coordonnée par Jude Bilandan Kumar. Patience Ngalula Mbombo vous l'a présentée. Merci à vous tous de l'avoir suivie.